Bonsoir et bienvenue dans un monde nouveau, le magazine des futurs désirables. Au lendemain d'un nouveau week-end de manifestations contre le pass sanitaire, on s'interroge ce soir comment redonner corps à nos sociétés morcelées. Le rôle de la culture dans ce qu'il appelle le remembrement de la société, c'est l'un des axes de réflexion de notre premier invité ce soir, le philosophe Mathieu Pottebonneville, spécialiste de l'œuvre de Michel Foucault.
Comment est-ce qu'il peut laisser mourir ce pouvoir qui a essentiellement pour objectif de faire vivre.
Comme Michel Foucault, Mathieu Pottebonneville est un philosophe qui aime se coltiner le moment, la conjoncture, alors on se la coltinera avec lui. On parlera aussi du rôle des musées dans le monde nouveau puisqu'il est également directeur du département culture et création du Centre Pompidou. Ausculter le présent, c'est aussi se pencher sur nos fantasmes sexuels. Que disent-ils de l'époque dans laquelle nous vivons?
Si vous voulez connaître mon fantasme,
notre fantasme.
Monica Bellucci et Carole Bouquet sont à l'affiche du nouveau film des frères Fuenquinos, Les Fantasmes. Ça sort mercredi au cinéma et on en parle ce soir avec Stéphane Fuenquinos.
France Inter. Sonia Chironi. Un monde nouveau.
Entre utopie et dystopie, fantasme et réalité, on trace des chemins vers un monde nouveau désirable.
Sous les lueurs poignardes du crépuscule sur le parking, on m'a forcé à boire. Et j'ai le pull taché de jean, de grande lampée, de myrtille, vodka, avalé à la fiole. C'était juste avant que la nuit ne pâlisse et s'étiole. On pousse encore un peu le volume, les gens se bousculent dans le noir. Les ambiances de pogo, de brume, de baisers et de verre au comptoir. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on penserait de moi. Juste pour te plaire. Oh, juste pour te plaire. Oh. On s'est trouvé dans la pénombre. Puis j'ai perdu ta trace. Les silhouettes qu'on peut confondre. Au bout d'un visage, une impasse. Tu m'as souri, puis t'es parti. Depuis, je compte les jours, les heures. Dans la fumée, il est minuit. Je voulais juste que tu me brises le cœur. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. J'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi. J'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire. Juste pour te plaire.
Je cherche dans le décor le moindre détail qui puisse refaire l'histoire et calfeutrer la.
Juste pour toi, j'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi, j'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. J'ai même dansé juste pour toi, j'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire, j'ai tout tenté pour que tu me vois. Juste pour toi, j'ai balayé ce qu'on pense de moi. Juste pour te plaire.
Juste pour te plaire, deuxième titre dansant et pop issu du troisième album de Teamed Up, La Course Folle, sorti en juin dernier en partenariat avec France Inter. Il est aussi à l'aise pour parler de culture pop que de l'œuvre de Michel Foucault, dont il est l'un des grands spécialistes, philosophe, maître de conférences à l'École normale supérieure de Lyon. Il est aussi directeur du département culture et création du Centre Pompidou. Bonsoir Mathieu Pottebonneville.
Bonsoir.
Votre dernier ouvrage, Voir venir écrire l'hospitalité, qui est paru en 2019 chez Stock, se penchait sur la question des réfugiés et sur, en particulier, l'inaction européenne en matière d'accueil des migrants. Que vous inspire, Mathieu Pottebonneville, cette actualité dramatique en Afghanistan avec le retour des talibans et ces dizaines de milliers d'Afghans qui tentent désespérément de fuir le pays?
Elle m'inspire d'abord terreur et désespoir. Elle m'inspire de grandes craintes pour des personnes auxquelles je pense là-bas, que je connais, des artistes avec lesquels il m'avait été donné de collaborer. Ce ne sont pas parce que ce sont des artistes, hein, que les artistes seraient plus dignes d'être sauvés que les femmes de ménage ou les jardiniers, mais il se trouve que je connais là-bas des personnes qui se sont donné beaucoup de mal pour témoigner de la vitalité de la scène culturelle afghane, et qu'aujourd'hui, et pour cette raison même, ils sont directement menacés de mort. Donc c'est une nasse et un piège absolument effrayant. C'est sans doute aussi pour les pays européens, une fois de plus, une sorte d'épreuve de vérité. Vous savez, l'hospitalité, c'est pas un concept niant, c'est pas un concept dans les roses pâles. L'hospitalité, il en va de qui nous sommes et de qui nous décidons d'être dans les moments d'adversité, dans ces moments qui ne tombent jamais bien et où une requête nous est adressée directement. Et c'est là où les choses se passent. Quand je vois... depuis 24 heures, un certain nombre de tribuns qui, à longueur de journée, assimilent terroristes et musulmans, qui sont mis aujourd'hui face à cette évidence que les premières victimes du terrorisme, ce sont des musulmans. Et leur première réaction est d'en appeler à protéger la France de cette nouvelle invasion. Bon. Si vous m'aviez invité à parler d'éthique, j'aurais dit que c'était lâche. Mais vous m'invitez à parler du musée, je contenterai d'un jugement esthétique. C'est moche. C'est très très moche. Peut-être que la question est là, d'ailleurs. Peut-être que la question est de savoir quelle dose de mocheté nous pouvons endurer dans nos actions, dans nos inactions et dans ce que nous décidons d'être. Visiblement, et c'est bien malheureux, notre tolérance en la matière est grande. Et le traitement que reçoivent aujourd'hui sur le territoire français des personnes exilées, des personnes demandeurs d'asile, notamment afghanes, ne m'encourage pas à un espoir illimité.
On va parler du musée, bien sûr, mais je le disais, Mathieu Pottebonneville, vous êtes aussi spécialiste de l'œuvre de Michel Foucault. Or, ce dernier est l'un des penseurs les plus cités depuis le début de la crise sanitaire pour ses écrits sur le biopouvoir et la gestion politique des épidémies. En quoi son œuvre peut-elle constituer une grille de lecture pertinente aujourd'hui dans l'analyse de la crise sanitaire que nous vivons depuis un an et demi?
Ah, c'est super. Je ne savais pas que vous m'aviez réservé toute la soirée sur France Inter pour déployer les aspects de cette question. Comment y répondre de manière simple? Il y a une grande richesse dans la réflexion de Foucault sur cette interaction entre les questions sanitaires et les questions politiques. Pour Foucault, c'est l'une des clés de la modernité. Ça commence d'ailleurs très tôt. Pour lui, ça commence au XVIIe siècle. Vous voyez que ça n'est pas une grande nouveauté. Et Foucault s'inquiète de la manière dont les questions de santé sont régulièrement dans l'histoire le laboratoire de formes de réorganisation du contrôle social. Il le fait à plusieurs reprises à propos de la peste, à propos de la lèpre, à propos de la variole. Il montre que dans ces différents cas, cela a donné ensuite des idées à des formes de gouvernement des conduites et des populations. C'est donc une source d'inquiétude. Pour autant, Michel Foucault n'a jamais dit qu'il ne fallait pas lutter contre la peste, ni contre la lèpre, ni contre la variole. Je veux dire par là qu'une lecture un peu trop simple du biopouvoir consisterait aujourd'hui à conclure que les mesures sanitaires sont, y compris lorsqu'elles sont immédiatement nécessaires et que le temps manque, d'insupportables restrictions de nos libertés. Je crois qu'on est dans une situation très inconfortable, où il nous faut tout à la fois veiller aux conséquences sur l'organisation des sociétés, des mesures que nous nous accoutumons à prendre, et veiller les uns aux autres au travers de ces mesures mêmes. C'est une voie très étroite, et je pense que c'est la voie du courage, et qu'il ne faut aujourd'hui ni céder à une adhésion béate, ni à la panique non plus, ou à une forme de résistance ou de conception mal placée de la résistance. Voilà. Où mettre nos résistances aujourd'hui, et notre résistance qui est d'ailleurs mise à l'épreuve très durement hein, depuis un an. On a bien vu cet été, je ne sais pas vous, mais moi, le nombre de personnes que j'ai croisées dont les corps ou les âmes ont un peu lâché à force d'avoir été mises à l'épreuve, bon, c'est difficile pour les sociétés. Nos sociétés sont profondément et intimement ébranlées par cette situation. Ce sont des moments où il faut du calme et de la réflexion, je pense.
Vous dirigez depuis 2019 le département culture et création du Centre Pompidou. Vous êtes en charge de la programmation vivante de l'établissement. Vous dites, la culture doit avoir un rôle de remembrement de la société. Comment la culture en général, et les musées et le Centre Pompidou en particulier, peuvent-ils nous aider à remembrer ce monde nouveau si complexe et si morcelé aujourd'hui ?
Alors, je pense que, en effet, l'une des questions aujourd'hui, c'est l'un des défis que lance la situation, c'est de réactiver, de réinventer ce que j'appellerais les institutions du commun. Les institutions où on peut partager ensemble autre chose que des comportements de consommation privés. Un musée, c'est d'abord cela. C'est le lieu où nous pouvons découvrir ensemble des choses que nous avons en commun. Par exemple, les collections d'un grand musée national que l'on peut admirer sans même avoir envie de les acheter. C'est formidable, un musée, on peut regarder quelque chose sans pouvoir l'acheter. Ça permet donc de libérer d'autres aspects de nos cerveaux. Un centre d'art, un lieu d'art, c'est un lieu comme ça de partage. C'est aussi un lieu, c'est particulièrement vrai du Centre Pompidou, où on a voulu réunir toutes les formes de l'art et de la culture. Finalement, il y a une bibliothèque, il y a une grande salle de spectacle, il y a des cinémas, il y a un musée. Bon, et c'est un lieu où se frottent ensemble les différentes manières de créer et de regarder ou de réfléchir le monde, de le réfracter dans des formes d'art. Bon, c'est très important parce qu'aujourd'hui, non seulement les individus peuvent avoir tendance à s'éloigner les uns les autres, mais même les formes culturelles ont parfois tendance à se replier chacune dans leur pré carré. Donc, avoir un lieu où se frottent comme deux silex pour faire jaillir des étincelles de la philosophie et de la peinture, du cinéma et du théâtre, eh bien, c'est sans doute une chance. Et puis, les musées sont aussi, en même temps, des lieux où aujourd'hui, on interroge, on interpelle parfois les impasses, les points aveugles, la manière dont on a oublié telle ou telle partie de notre société, dont les femmes sont trop absentes. La grande exposition du Centre Pompidou cet été, elles font l'abstraction. On montre que l'histoire de l'art abstrait passe et passe éminemment par les femmes. Donc les musées sont à la fois aujourd'hui des lieux de mise en commun. Et en même temps, ce sont des acteurs, hein, des héritiers des formes qu'a prises notre communauté, qui sont parfois des formes à contester ou à réinventer. Donc les musées, à ce titre-là, sont des agoras et doivent être des agoras absolument passionnantes, des lieux de parole aussi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup au Centre Pompidou, parce que on parle de ce qu'on partage et de ce qui nous partage. Vous voyez, c'est les deux à la fois.
C'est ça le musée du futur. Le Centre Pompidou va fermer ses portes en 2023 pour 3 ans de travaux. Il va être entièrement rénové. Comment vous l'imaginez, ce nouveau Centre Pompidou ?
Alors, c'est compliqué d'imaginer le nouveau Centre Pompidou parce que d'aussi longtemps qu'on s'en souvienne, d'aussi loin qu'on s'en souvienne, le Centre Pompidou a toujours été nouveau. Je veux dire qu'il a été pensé, et d'ailleurs c'est ce qui a scandalisé tout le monde dans les années 70, hein, lorsqu'il a ouvert en 1977, c'était une sorte de vaisseau lancé vers l'avenir, et les artistes qui y créent ont toujours été comme ça tendus vers l'invention de choses nouvelles. Donc c'est compliqué de renouveler le lieu du nouveau, mais c'est évidemment l'enjeu et l'objet. C'est passionnant. D'abord, il y a des choses qu'on mesure mieux encore qu'avant, je crois, après l'année que nous venons de vivre. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais un musée, c'est un lieu où l'on va. Je veux dire, la période qu'on vient de traverser a montré toute la richesse, l'extraordinaire richesse du numérique pour découvrir des contenus, pour faire des visites virtuelles, etc. Mais en même temps, on a découvert qu'aller quelque part pour voir quelque chose, c'était irremplaçable parce qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, vous savez, même une peinture, Pour l'avoir, il faut le corps tout entier, pour mesurer sa taille, pour s'en approcher, pour s'en éloigner, pour tourner autour. Vous savez bien, quand on a visité un musée, après, on est crevé. Hein. Le musée, c'est de la culture physique. C'est pas seulement cérébral, comme disait Édouard Glissant, la tête est une partie du corps. Et c'est avec son corps tout entier qu'on va dans un lieu comme celui-là, c'est avec son corps tout entier qu'on vibre devant un spectacle de danse ou devant un spectacle de théâtre. Donc, la première chose, ce sera de penser, de repenser ces espaces où l'on se rend, la porosité de ces espaces, la circulation entre ces espaces, de manière à ce que on puisse les fréquenter aussi. Un musée, c'est aussi, et ça va être de plus en plus, un lieu où l'on revient. Parce que le temps est peut-être en train de passer, des grandes expositions one shot, comme on dit, qui font voyager des gens depuis très loin, des œuvres depuis très loin. Bon, ça, c'est compliqué écologiquement. Donc un musée va aussi se reposer sur ses collections, celles de Pompidou sont extraordinaires, deuxième collection au monde d'art moderne et contemporain, et pour faire revenir le public. Donc va falloir inventer les formes de cette flânerie-là, de cette hospitalité aussi. Là, ça ce sera quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis un musée, ça devrait être un laboratoire, parce que lorsqu'on invite les artistes dans un musée, c'est pour qu'ils inventent quelque chose de neuf. Donc, comment est-ce qu'on accompagne, c'est une question très, très délicate, hein, comment est-ce qu'on accompagne l'invention? Comment est-ce qu'on accompagne ce qui, par définition, est imprévisible, hein, comme on va cette année accueillir, je ne sais pas, on va accueillir Léos Carax pour une grande exposition. Comment est-ce qu'on accompagne un artiste dans l'invention de quelque chose qui, par définition, ne nous est pas encore connu. Bon, ça, ce sont des précautions, des attentions, des manières de prendre soin de la création artistique qui nous accapare énormément.
Et vous êtes aussi spécialiste de fiction contemporaine et de pop culture en général, et vous réfléchissez aussi, on va pas avoir le temps d'en parler ce soir, parce que comme vous l'avez dit au début de cette interview, il nous aurait fallu une heure ou plus pour évoquer tous les sujets qu'on peut évoquer avec vous et qui sont passionnants. Dernière question, c'est la question rituelle de cette émission. Quel est selon vous l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
Alors ça m'a bien cassé la tête pendant, voilà, heureusement que je pouvais me baigner ces dernières semaines. J'ai fini par trouver une idée, trouver dans les pages d'un très très beau livre de Patrick Chamoiseau, qui s'appelle « Écrire en pays dominé ». C'est un livre magnifique que je recommande en cette période où les Antilles souffrent tant et tant. Dans ce livre-là, pour intituler les citations qu'il recueille au fil de ses lectures, Chamoiseau invente un mot qui est le mot de sentimentèque. Je me disais que ce qui serait formidable dans l'avenir, c'est de pouvoir proposer au Centre Pompidou une sentimentèque, un lieu où on pourrait collecter, recueillir, prêter des sentiments, les sentiments d'un spectateur devant un spectacle, la vibration d'une spectatrice face à un tableau. On pourrait les emprunter, voyez, ça donnerait des scènes amusantes. Ah zut, je suis en retard, je devais rendre ce rire le mois dernier, ou encore recommandé par le sentimentécaire. Voyez, on pourrait faire imaginer des petits cartons posés sur des moments des moments bouleversés, comme les moments qu'on connaît finalement dans les musées. D'ailleurs, peut-être qu'un musée ou une bibliothèque, c'est toujours une sentimentèque. Donc, je propose ce défi à tous les start-upers de France, inventer une machine à prêter, à partager les émotions.
En espérant qu'ils soient nombreux à nous écouter et qu'ils se mettent eux aussi à pencher sur le sujet. Merci beaucoup, Mathieu Pott-Bonneville, d'avoir été notre invité ce soir. to the people, le pouvoir aux gens, chantait John Lennon en 1975, l'ex-Beatles, un appel à la révolution, extrait de l'album Shaved Fish, et l'une des premières chansons engagées de l'artiste qui en écrira bien d'autres évidemment, dont le célébrissime Imagine.
Un monde nouveau. Sonia Quironi sur France Inter.
On continue d'écrire le monde nouveau sur France Inter avec Elena Skapatichi. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef web au magazine Ouzbek Erika, le magazine qui explore le futur. Et Philippe Azoury, rédacteur en chef culture à Vanity Fair. Bonjour Philippe.
Bonjour Sonia.
On commence avec vous Elena, et il semblerait que la question de la santé mentale soit de moins en moins taboue dans nos sociétés. On l'a vu récemment avec des grandes sportives qui ont osé sortir du silence, mais le mouvement serait plus général.
C'est un phénomène qui était complètement passé sous les radars avant la pandémie, mais qui prend de telles proportions depuis le début de la crise du Covid-19 qu'il est désormais difficile d'y échapper. Que ce soit sur Insta, TikTok, Twitter, Facebook, on assiste à une spectaculaire libération de la parole sur les troubles psychiques. Portée essentiellement par les jeunes générations, celles qui ont aussi, rappelons-le, été les plus précarisées et isolées depuis mars 2020, cela prend la plupart du temps la forme de confessions associées à certains hashtags comme dépression, bipo ou schizo. Rien que sur Instagram, à l'échelle mondiale, le hashtag dépression culmine ainsi à 23,7 millions de publications.
Ah oui.
Celui de bipolar à 2,5 millions.
Mais est-ce que ce mouvement de libération de la parole s'accompagne pour autant d'une levée du tabou dans la réalité, dans le réel?
Malheureusement, Sonia, c'est pas si sûr que ça. 87% des personnes interrogées n'oseraient pas parler de leurs problèmes de santé mentale avec leur famille. Chez les générations précédentes, on peut dire que la honte associée aux maladies psychiques semble encore bien présente. À cet égard, le travail de pédagogie de certains comptes Insta visant à normaliser certaines pathologies, les groupes d'entraide qui se multiplient également sur Facebook, pourraient contribuer à changer les choses. Surtout, certains jouent un véritable rôle de lanceur d'alerte, notamment sur les dysfonctionnements de la prise en charge psychiatrique en France. La journaliste Pauline Porro s'est infiltrée pour nous dans le monde des comptes Insta dédiés à la dénonciation du système de prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques. Sandra, le prénom a été modifié, détentrice du compte Instagram Noir et Bipolaire, dit ainsi avoir voulu mettre en évidence la gravité de la maladie, mais aussi et surtout faire connaître le traitement hospitalier qui était réservé aux patients bipolaires en France. Aujourd'hui en France, Sonia, seuls 40 à 60% des personnes souffrant de troubles psychiques seraient prises en charge. Cet échec de notre système de santé ouvre la voie malheureusement à toutes les dérives possibles. L'autodiagnostic notamment, dont la fréquence se manifeste sur les réseaux sociaux à travers l'explosion du hashtag autodiag, mais aussi le recours à toute forme de prise en charge alternative qui sont une véritable aubaine pour les charlatans. Comme vous pourrez également le lire sur notre site, dans son dernier rapport rendu public le 22 juillet dernier, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires alertait sur la multiplication de coachs et gourous en tout genre surfant sur la vulnérabilité d'une partie de la population pour construire un juteux business à base de techniques de développement personnel matinées de pseudo-esprit New Age. 40% de leurs victimes auraient moins de 18 ans. N'ayons pas peur des mots, la situation est absolument catastrophique. Mais comme le signalait l'un de nos lecteurs sur notre plateforme, on ne peut qu'espérer que les nouvelles générations, par leur rôle de lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux, créent un cercle vertueux et mettent les décideurs publics face à l'obligation de doter enfin la médecine psychiatrique française de moyens adaptés.
Merci beaucoup Elena. Une enquête à retrouver donc sur le site d'Ouzbek Erika. Philippe Azoury, vous êtes rédacteur en chef culture à Vanity Fair. Donc, et le monde nouveau, vous, eh bien, vous l'avez scruté au Festival international du film de Locarno, dont la 74e édition s'est achevée ce week-end. Nous y étions nous-mêmes en début de semaine passée.
Oui, on s'est raté, Sonia. Mais donc, cette année, voilà, le Léopard d'or de Locarno a été remporté par le cinéaste indonésien Edwin, avec un film intitulé Vengeance is mine, All Other Pay Cash. Pas de ce film dont je vais vous parler, mais d'un détail technique qui m'a interpellé, ou même plutôt chagriné. À Locarno, comme à Cannes, déjà, on a vu disparaître le bon vieux catalogue papier qui présentait les films. Il était gros, il était même gras, comme un annuaire. Il n'était pas très écologique, et on s'en passera. Mais comme désormais les tickets se prennent en ligne, c'est la billetterie électronique qui a peu à peu fait office de catalogue. Et quand on ouvre cette billetterie, que voit-on? On voit les titres des films du jour, accompagnés d'une photo et la nationalité du film, et puis c'est tout.
Et c'est déjà beaucoup, non? Et qu'est-ce qui vous manquait?
Bah rien, un détail, une broutille, le nom du cinéaste.
Ouais,
il n'apparaissait nulle part. Enfin, il apparaissait un peu plus tard. Il fallait qu'une fois que le film était sélectionné, on ouvrait une sorte de grosse fiche technique, un peu grisouille, à la fin de laquelle la bio de la réalisatrice ou des réalisateurs finissait par apparaître. Alors c'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour un critique de cinéma, ça veut dire beaucoup. Pourquoi ? Parce que le nom d'un ou d'une cinéaste n'a pas toujours été en haut d'une affiche. Le cinéma, ça a d'abord été cette industrie anonyme où on allait voir un film Pathé ou Gaumont. C'était les producteurs qui avaient les maisons de production. Puis, avec l'arrivée du gros plan, dans les années 20, ce sont les noms des stars qui ont remplacé celui des compagnies de production. Il a fallu un combat critique assez long, assez aride, assez violent, d'abord dans les années 20 et 30 pour faire reconnaître au cinéma son statut d'art, le 9e art. Et enfin, dans les années 50, notamment en France, au sein des Cahiers du cinéma, pour que la politique des auteurs l'emporte.
Et alors, qu'est-ce que c'est exactement cette politique des auteurs ?
C'est un peu un combat pour savoir qui fait le film, qui l'assume et, accessoirement, qui a le droit de regard suprême sur son montage. C'est quand même pas rien. Bon, pour les plus jeunes, ça peut sembler un combat réellement d'un autre âge, mais il suffit de comparer le statut aujourd'hui des showrunners de séries pour voir qu'il s'agit encore et toujours de la même histoire qui recommence. Sonia, si je vous demande qui a signé Mad Men, par exemple, vous me répondrez sans hésiter.
Matthew Weiner.
Ouais. Si je vous demande qui a signé Euphoria.
Sam Levinson.
Voilà. Mais si je vous demande qui a signé Dallas dans les années 80. Voilà, là c'est blanc, mais on ne sait pas. Les showrunners ont aussi emporté, donc peu à peu, leur politique des auteurs. Bon, pour le cinéma, on croyait que la partie était gagnée pour toujours. Or, en début d'année, on a vu les plus grosses plateformes de streaming, on ne les nommera pas, hein, vous les connaissez toutes, tenter de faire apparaître, enfin plutôt de faire disparaître, sans prévenir, le nom de l'auteur dans la courte présentation du film. Dans un paysage cinématographique qui est assez inégalitaire, on a vite fait, dans un festival de cinéma ou ailleurs, d'être le Ghanéen ou l'Espagnol de service. Mentionner au passage un de très bons cinéastes que j'ai découvert cette année à Locarno, Chema Garcia Ibera, auteur de Espiritu Sagrado, et Kofi Ofosu-Yeboah, auteur de Public Toilette Africa. Donc on voit bien que ce remplacement de l'auteur au profit d'un pays, ça ne marche pas. Dans le monde qui vient, qui a peur des auteurs ? De quoi, pour paraphraser Badiou, aujourd'hui les cinéastes sont-ils le nom ? Sont-ils si commercialement des repoussoirs ? Ou craint-on de voir le monde à travers les yeux d'un ou d'une autre, plutôt qu'au travers d'un enregistrement mécanique ? Bah, cela, je laisse les auditeurs de France Inter la joie ou pas d'y répondre.
Merci beaucoup Philippe Azoury, rédacteur en chef culture à Vanity Fair. Et merci à Elena Scapaticci, rédactrice en chef web d'Ouzbek Erika. Qui a peur des auteurs ? Certainement pas notre prochaine invitée. Ce passionné de cinéma a été pendant 20 ans un directeur de casting très demandé en français à l'international avant de se mettre à l'écriture et à la réalisation avec son frère, l'écrivain David Foenkinos. Après La délicatesse et Jalouse, c'est le troisième long métrage des frères Foen, nos frères Cohen à nous, Les Fantasmes. Ça sort mercredi avec un casting 5 étoiles. Bonjour Stéphane Foenkinos.
Bonsoir.
Il paraît qu'au lycée, vos copains vous surnommaient Rain Man car vous reteniez tous les noms d'acteurs. D'où ça vous vient cette passion pour les acteurs et les actrices ?
Il faut faire attention avec ce qu'on utilise aujourd'hui comme mot. Je n'arrive pas à le comprendre. Je sais juste qu'à un moment donné, j'ai eu des velléités de comédien et je me suis bien plus amusé à diriger les autres.
Les Fantasmes, ça sort mercredi au cinéma et on en parle ce soir sur France Inter avec son co-réalisateur Stéphane Foenkinos.
Bene. la vita è breve, pure stretta. Ma la tua mente è una gran sarta che fugge in fretta, il tempo di una sigaretta. Fa bene a chi alla luna maledetta, e dalla vita non si aspetta che sia perfetta, si gode quello che gli spetta, perché si muore troppo in fretta. Che ti conviene fingere di non sapere che il mondo è verticale e vai giù insieme alla tua tempra morale che teme di invecchiare e di dimenticare come si cambia in fretta.
Vivo, je vis de l'italien Andrea Laszlo De Simone. Un an après le sublime EP Immensità, le Turinois revient avec cette hymne à la vie, sorti en pleine pandémie, en partenariat avec France Inter. On l'aime beaucoup ici, Andrea Laszlo De Simone, et on n'est pas les seuls, puisqu'on retrouve Immensità dans la bande originale des Fantasmes que vous co-réalisez, Stéphane Fuenquinos, avec votre frère, l'écrivain David Fuenquinos. C'était aussi pour vous une façon de rendre hommage au cinéma italien des années 70-80, dont vous êtes beaucoup inspiré pour ce film à sketch?
Absolument, enfin, on a essayé en tout cas, c'était effectivement des modèles, les monstres, les nouveaux monstres, les films de Risi, et puis surtout, il y avait une irrévérence qu'on a essayé d'approcher, même si notre époque n'est plus la même.
Alors, Les Fantasmes, ça sort mercredi. On est donc dans un film à sketch, hein, dans lequel on suit six couples, six façons, parfois très inattendues, d'accéder au plaisir. C'est drôle et plutôt culotté. On écoute tout de suite la bande-annonce.
On va au Nefertiti, c'est soirée gang-bang.
Ah, ok.
On est jeudi.
Non. Imagine sa tête si je lui dis que ça fait un an que je fais semblant.
C'est bon, mon amour.
Oh, trop bon. Ça fait un an. Et si on jouait des rôles?
La prochaine fois, j'essaierai lieutenant.
Ah oui.
L'éloge du prêtre, c'est ma mise en scène.
Moi aussi.
Genre deux meufs. Et un mec, je dirais pas non, tu vois, c'est...
Ah, ça va pas être possible. On a arrêté toute relation sexuelle.
On a découvert un plaisir qui est en fait qui est dingue.
Quoi? Ma sœur? Bonjour. Bah, on s'embrasse, non?
Il est merveilleux. T'es un énorme malade?
Ma sœur est folle de toi, elle n'attend qu'une chose, c'est que tu l'épouses, et toi tu me fais une déclaration de merde? Non mais j'hallucine, t'es... Non mais tu... Mais va te faire soigner!
Allez, viens. Je suis ok pour qu'on se filme, mais pas pour me lancer dans le porno, je suis pas exhibo.
D'accord, on le fait, mais que pour nous. Jurez, mon amour.
Oh putain.
Les Fantasmes, le dernier film des frères Fuenquinos qui sort mercredi avec un casting 5 étoiles. Vous aurez peut-être reconnu Karine Viard, Jean-Paul Rouve, Carole Bouquet, Monica Bellucci, Ramzi Bedia, Denis Podalydès ou encore Nicolas Bedos, pour ne citer que ces drôles. On rit beaucoup et on sent aussi, de la part des acteurs et des actrices, une vraie jubilation à incarner ces personnages un peu paumés, voire carrément barrés. On sent qu'ils se sont beaucoup amusés, eux aussi.
Mais je pense que on vivait tous quelque chose d'étrange, comme vous avez vu, Sonia, depuis un an et demi. Et donc, on dit avec David qu'on a vraiment le sens du timing, parce que faire une comédie sur la sexualité, sur des scènes intimes, en plein confinement, en plein boom des gestes barrières, c'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Et donc, forcément, en sortant de ces moments d'inactivité, il y avait un désir décuplé de leur part, et ils ont tout donné.
Ouais, ça se sent. Chaque couple explore un fantasme du plus classique, on va dire, le jeu de rôle, voilà, l'exhibitionnisme, oui. Au plus étonnant, voire quand même assez tordu. Hein. si vous allez voir le film, vous découvrirez par exemple la saurophilie, la dacryphilie ou la thanatophilie. Tous les fantasmes évoqués dans le film existent.
Absolument, absolument. Alors, ça fait partie aussi de notre système d'écriture aussi, c'est que pour partir vraiment dans faire un pas de côté de la vie, il faut partir de la réalité. Et tous ces fantasmes, ces paraphilies, comme les ont donc aussi nomenclaturé les psychologues ou les neurologues, existent. Oui, absolument.
Et puis il y a l'hypophilie. Alors ça, c'est le fait d'être excité par l'absence de relations sexuelles. Oui. Ça serait une nouvelle tendance dans la jeune génération, vraiment?
Oui, en fait, on s'est inspiré. Alors, c'est vrai qu'avec ce film, on a eu envie de s'intéresser à la fois à des milieux sociaux différents, des générations différentes. Et c'est vrai que pour les jeunes, c'était peut-être partir à contre-pied en se disant, et si eux, effectivement, avaient moins envie, dans un monde totalement hyper-sexualisé, de lever le pied, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, les jeunes, William Legbill et Joséphine Japy, qui jouent ces rôles, et ceux autour d'eux, nous ont dit, oui, c'est quelque chose qui est réel.
Qui existe aujourd'hui. Vous avez été directeur de casting pendant 20 ans, Stéphane Fouet-Kitos, pour André Téchiné, François Ozon, je ne peux pas tous les citer, hein, Jean-Luc Godard, Woody Allen ou encore Terrence Malick. C'est Jacques Doyon qui vous a mis le pied à l'étrier. Vous avez commencé avec lui. Que vous a-t-il appris ?
Il m'a surtout appris à regarder le meilleur chez les autres, parce que moi, j'avais pas forcément ce regard sur moi-même. D'abord, Il m'a engagé alors que je n'avais rien fait. Donc moi, je suis un prof d'anglais.
Vous étiez prof d'anglais. Ouais.
Voilà. Et donc, c'est comme si ce métier qui m'appelait m'avait choisi. Et d'autre part, un peu plus tard, c'est quand même lui qui m'a dit un jour, je travaille sur un scénario, tu devrais peut-être essayer de réécrire avec ton frère. Donc, on lui doit quand même aussi notre collaboration.
Donc, l'écrivain David Fuenquinos. Il y a un film qui a beaucoup compté pour vous dans vos inspirations. C'est Les Chansons d'amour de Christophe Honoré. Extrait.
Mais pas ensemble.
Bah si, parfois.
Mais c'est coton. Faut faire attention.
Ah oui, bien sûr, oui. Ça, c'est sûr.
Mais ça t'est venu naturellement.
Quoi, le sexe?
Oui, une position. Est-ce que tu savais où te mettre naturellement?
Ça, c'est pas très difficile, maman.
J'imaginais que c'était très compliqué. C'est déjà assez coton à deux, comme ça, comme tu dis. Tu avais déjà fait l'amour avec une fille?
Moi? Non. Non, non.
Et ça te plaît?
C'est bizarre, c'est marrant, c'est différent.
Extrait donc des Chansons d'amour de Christophe Honoré en 2007 avec Ludivine Sagnier, Louis Garrel ou Chiara Mastroianni. Pourquoi ce film a tant compté pour vous?
Je pense que c'était la conjonction de tous les éléments que j'aime dans le cinéma. A d'abord des histoires d'amour, des histoires d'amour compliquées, des histoires d'amour compliquées, mais où tout le monde se parle et communique finalement de manière simple sur des choses qui sont peut-être moins évidentes pour d'autres. Et puis il y a la musique. Et la musique d'Alex Baupin, elle a cristallisé quelque chose. Et c'est vrai que voilà, j'adore cette musique. Il le sait. On a la chance de collaborer ensemble sur un spectacle. Et c'est vrai que c'est merveilleux de revisiter ces chansons avec lui.
Vous êtes aussi un réalisateur engagé, Stéphane Fuenquinos, dans le combat pour l'égalité homme-femme, une cause portée notamment aux États-Unis par Emma Watson, la jeune actrice qui avait prononcé un discours marquant le 23 septembre 2004, c'était à la tribune des Nations Unies.
Today, we are launching a campaign called He for She. I am reaching out to you because we need your help. We want to end gender inequality. And to do this, We need everyone involved. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for change.
Emma Watson, donc, à la tribune des Nations Unies en septembre 2004, qui lançait la campagne E4She pour mettre fin aux inégalités de genre. Nous avons besoin de tout le monde, disait-elle. Nous avons besoin des hommes aussi pour qu'ils soient les avocats du changement. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu Emma Watson?
Déjà, j'ai été impressionné par la force et son courage, parce qu'il faut pas oublier que c'est une actrice très populaire et que elle s'est mise dans un viseur, parce que en encourageant les hommes à venir soutenir la cause de l'égalité homme-femme, elle s'est pas fait que des copains et j'ai trouvé ça tellement justifié. Et je pense que c'est la base de tout, avec ce que nous vivons encore aujourd'hui. C'est vrai que de toute façon, voilà, cette parité, cette égalité dans le traitement, c'est la base de l'éducation, c'est la base de notre vie en société. Et elle m'a profondément, voilà, poussé à un peu m'engager. Même si on veut toujours faire plus, mais en tout cas, c'est vrai que c'était quelqu'un de très inspirant.
Oui, parce que vous êtes membre aujourd'hui donc de cette association E4She.
Ouais.
Vous connaissez bien le monde du cinéma pour y évoluer depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous sentez que les choses sont en train de changer, d'évoluer pour de bon vers l'égalité?
Pour de bon, je ne sais pas, mais à chaque fois, voilà, aussi, il faut parler de l'association 50-50 qui essaye d'œuvrer à ce que le monde de la culture et du cinéma en particulier, de la technique aussi, parce qu'il faut parler aussi des gens qui sont derrière la caméra, c'est important, et d'arriver déjà à une égalité de salaire toute bête, ça serait exactement comme dans la société civile, la première des victoires. Donc oui, bah parce qu'encore une fois, c'est aussi par exemple dans les fantasmes, alors c'est à notre niveau, on essaye aussi de faire ne serait-ce que des couples qui sont de la même génération. Mmh. voilà, que des hommes et des femmes de 50 ans puissent être en face à face à l'écran. Voilà, Denis Podalydès et Suzanne Clément sont de la même génération et Karine Viard, Jean-Paul Rouve aussi. Ça paraît idiot, mais c'est des petites pierres à l'édifice en se disant, voilà,
bien sûr,
on peut aussi... Voilà, faire rire. On peut aussi faire des films populaires. On peut aussi faire des films qui font réfléchir et puis refléter une société telle qu'elle est.
Et puis les femmes dans le film, elles sont actrices de leur sexualité.
Ah oui, ça c'était
et de leur jouissance.
Ça c'était très important. Voilà, un peu plus que les hommes parfois. Mais c'est vrai que dans le film, on s'amuse à avoir des angles différents. Il y a des couples qui découvrent leur fantasme, certains le subissent, d'autres décident de le vivre ensemble. Et ce qui était important pour nous, c'était que c'est si on le subit, à un moment donné, il faut qu'on le choisisse.
Oui. Et puis il y a une femme qui subit aussi le fait, eh bien qu'elle simule.
Oui, et qui en parle.
Et qui en parle.
Et qui en parle et qui décide d'en parler. Et là, évidemment, donc c'est Céline Salette, elle va se retrouver face à Nicolas Bedos et face à une réalité de couple et de se dire, au moment où elle décide d'en parler, va lui apparaître une autre manière de prendre du plaisir. Et ça, par contre, on peut pas raconter tout maintenant.
Mais... Non, on peut pas raconter. Mais on note que voilà, sa copine lui dit, mais comment ça,
comment ça,
tu n'as pas d'orgasme, ça va pas du tout. En fait,
ouais,
aujourd'hui,
il faut parler, il faut communiquer. Voilà. Enfin, c'est le but de ce film aussi, c'est communiquons.
Les fantasmes, donc, ça sort mercredi au cinéma des frères Fuenquinos et on vous le recommande vraiment parce qu'on a beaucoup ri en voyant votre film.
Merci.
Un exemple de conviction qui a changé le réel pour terminer Stéphane Fuenquinos. À l'occasion des 40 ans de la loi Langue sur le prix unique du livre, on vous a proposé ce soir, dans Un Monde Nouveau sur France Inter, de nous présenter un livre. Lequel avez-vous choisi ?
Alors j'ai choisi Olympia de Paul-Henri Bison, voilà, chez Gallimard, et qui raconte l'histoire d'une directrice de marketing, Roxane, une femme très ambitieuse de la manière dont on la voit de l'extérieur, pour un grand groupe d'horlogerie suisse, et qui se retrouve à chercher une tête de proue pour la campagne de cette grande marque en vue des Jeux Olympiques de 2024. Et elle décide de faire appel à Marie-Josée Pérec. Et c'est vrai qu'on a un petit peu oublié peut-être cette immense athlète qu'elle était. Et Paul-Henri Bison, dans une... à la fois un plaidoyer et en même temps une utopie, va nous ressusciter le personnage de Marie-Josée Pérec et va aussi permettre à son personnage principal de se réapproprier voilà la femme qu'elle devait être et qu'on a un peu souillée. C'est un livre à la fois extrêmement dense, très poétique et magnifiquement actuel, et voilà, et je sais que il a permis à Marie-Josée Pérec de rencontrer Paul-Henri Bison à l'issue de la sortie du livre. Mmh. Et qu'elle lui a juste dit comment avez-vous fait pour être dans ma tête ? Et je trouve merveilleux quand on, nous créateurs, on essaye un tant soit peu d'approcher les imaginaires. C'est ce qu'on a fait aussi avec les fantasmes. On ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête des gens, mais quand on crée, on peut se permettre.
Olympia, donc de Paul-Henri Bison. Merci beaucoup, Stéphane Fuenquinos. Les Fantasmes, donc, ça sort mercredi au cinéma. Et pour le plaisir, Stéphane Fuenquinos, on va se réécouter un extrait de la bande originale du film Immensità d'Andrea Laszlo.
Ah, certo, grazie mille pour Monica. Monica Bacci.
Andrea Laszlo des Simonets ce soir sur France Inter. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et la préparation de l'émission. Sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir. Antoine Cruchon, un monde nouveau, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain. Après le journal de 19h, vous avez rendez-vous avec le téléphone sonne d'Éric Bellevaux. Ce soir, l'Afghanistan.